Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Rien n'est à retenir dans ce système de retraite proposé par le gouvernement. J'ai envie de dire, tout est à jeter.
Commentaire sans appel ce matin sur Europe 1 de Marine Le Pen qui veut le retrait du projet du gouvernement. Le dialogue social semble aussi au point mort. Édouard Philippe renvoie les syndicats à leurs responsabilités s'ils veulent priver les Français de Noël. Le patron de la CFDT lui demande de revoir sa copie en retirant l'âge pivot de sa réforme. Côté trafic, c'est toujours très perturbé. Un TGV sur 4, un TER sur 3 à la SNCF. Pour le métro, tout est à l'arrêt, sauf les deux lignes automatiques. 660 médecins hospitaliers qui menacent de démissionner. Pour eux, il n'y a plus assez de moyens.
Un collègue, chef de service de pédiatrie, dit « Je pense démissionner, je ne veux pas qu'un bébé meure dans mon service ».
La mort d'une icône de la nouvelle vague, Anna Karina, vient de mourir à l'âge de 79 ans, muse de Godard, mais aussi interprète de Gainsbourg. Anna Karina, dont Nicolas Carreau nous dressera le portrait en direct dans Europe Midi. Enfin, la météo avec toujours 7 départements en vigilance orange inondation et un temps très mouvementé dans le sud, nous dira Laurent Cabrol.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
11e jour de grève dans les transports et toujours le même scénario, toujours aussi difficile de se déplacer en train avec à peine un TGV sur 4 aujourd'hui, un TER sur 3, un Transilien sur 5. Dans le métro, toutes les lignes sont à l'arrêt, à l'exception des deux lignes automatiques, comme une illustration du dialogue social qui semble au point mort avant la journée de mobilisation de mardi. Chacun campe sur ses positions, Claudia Bertram, avec un bras de fer à distance entre l'exécutif et les syndicats.
Oui Fabienne, le ton monte à l'approche de Noël. Le Premier ministre met en garde les grévistes dans les colonnes du Parisien et appelle chacun à prendre ses responsabilités. « Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment », dit Édouard Philippe. Pour sa part, le leader de la CFDT, Laurent Berger, ne veut pas tout bloquer durant les fêtes, dit-il dans une interview au JDD. Mais il maintient sa position, le gouvernement doit retirer de sa réforme l'âge pivot à 64 ans. Le retrait de l'âge d'équilibre est la première des conditions pour accepter cette réforme, dit-il. La CFDT qui pourrait à nouveau appeler à la mobilisation en janvier. Le Premier ministre rappelle quant à lui sa détermination à mener la réforme, tout en maintenant sa porte ouverte pour les syndicats qu'il doit rencontrer cette semaine. Tout n'est pas arrêté, dit-on à Matignon. Certains ministres disent même que l'âge pivot est négociable. Mais les discussions reprendront après la manifestation de mardi. À Matignon, on s'est fait une raison. En tout état de cause, cela ne se fera pas avant.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Et ce matin, Marine Le Pen sur Europe 1 a été catégorique. Pour elle, il faut tout simplement le retrait de ce projet.
Rien n'est à retenir dans ce système de retraite proposé par le gouvernement. J'ai envie de dire, tout est à jeter. Elle effondre totalement notre système de retraite. Moi, je pense qu'il faut retirer cette réforme. Et c'est la raison pour laquelle je dis à votre antenne ce matin que l'âge pivot est une mauvaise manière qui est faite aux Français. Mais ça n'est pas le plus grave dans ce système de retraite proposé. Le plus grave, c'est le calcul de la retraite sur la carrière entière, c'est la valeur du point, c'est le hold-up qui est fait sur les réserves des systèmes de retraite. 160 milliards vont être volés purement et simplement par le gouvernement. Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement graves, bien plus graves pour l'avenir des Français que l'âge pivot.
Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos. Et puis, on peut dire que c'est un oubli qui tombe mal. Jean-Paul Delevoye, qui est en charge au gouvernement ce dossier des retraites, a dû rectifier sa déclaration d'intérêt en déclarant au final 13 mandats, dont 11 bénévoles, qui auraient pu constituer un conflit d'intérêt avec sa gestion de la réforme actuelle. Ce qui lui a valu là encore les critiques de Marine Le Pen ce matin sur Europe 1, qui juge que cela le disqualifie totalement. Le Premier ministre, lui, a renouvelé à Jean-Paul Delevoye sa confiance. Autre front pour le gouvernement, celui de l'hôpital, avec les médecins qui trouvent toujours que le compte n'y est pas, malgré le plan annoncé en novembre par le ministre de la Santé. Ils sont 660 ce matin à signer une tribune dans le journal du dimanche. Ils menacent de démissionner si on ne leur donne pas plus de moyens. Écoutez le professeur André Grimaldi.
Nous, les médecins, nous ne faisons pas la grève des soins. Nous ne bloquons pas l'activité. Et quand on ne fait pas ça dans ce pays, on n'est pas entendu. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement décide. Il y a à y avoir des rames. Alors la ministre, nous disons, ou bien vous ouvrez une négociation, ou bien vous vous rappelez qu'un jour vous avez été médecin et vous prenez vos responsabilités. Nous prenons les nôtres, nous ne participons pas à ça. Un collègue, chef de service de pédiatrie, dit « je pense démissionner, je ne veux pas qu'un bébé meure dans mon service ». C'est terrible d'en arriver là, c'est parce qu'on est au bord du drame que des médecins qui continuent à soigner, qui continueront à soigner, disent « nous n'estimons que nous ne sommes plus responsables de la qualité et de la sécurité des soins ». C'est ça que ça veut dire. Alors pour moi, il y a 660 signataires, lorsqu'il y aura 1000, la ministre recevra les lettres individuelles de chacun pour dire « c'est sans nous ».
Le professeur André Grimaldi avec Justin Morin. À suivre, une histoire qui ne fait vraiment pas honneur à ceux qui se cachent derrière la cagnotte qui avait été mise en place pour venir en aide à la famille d'un pompier décédé dans un accident d'hélicoptère a été piraté et presque tout le contenu de la cagnotte a été dépensé.
Midi 38, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Souvenez-vous, le 1er décembre dernier, un hélicoptère s'écrasait près de Marseille. À son bord, un pompier, deux sauveteurs de la sécurité civile. Une cagnotte était alors ouverte pour l'un des disparus, Norbert Savornin. Plus de 30 000 euros étaient collectés pour sa famille. Sauf que quelques jours plus tard, Yasmine Akatou, on a appris que presque la totalité de la cagnotte a été dépensée frauduleusement.
Effectivement, et aujourd'hui, il ne reste que 600 euros sur les 30 730 récoltés. En quelques heures, le ou les hackers ont dilapidé la cagnotte en achat sur Internet. Les auteurs de ce détournement de fonds ont simplement piraté le mail qui a servi à créer cette cagnotte. Ils ont débloqué les fonds, les ont transférés pour pouvoir les dépenser. Aucun contrôle d'identité n'est nécessaire pour cette transaction. Alexandre Aubert, le sapeur-pompier qui gérait cette cagnotte, est écœuré.
Je suis totalement dégoûté que l'on ait fait ça envers quelqu'un qui n'est plus là, qui a rendu un service, qui a eu les hommages nationaux pour une famille pour lesquelles l'argent allait être quand même un soutien attendu en cette période-là. Ça aurait été un beau cadeau. Et on espère qu'en ces fêtes de Noël, la société Litchi aura un petit geste en faveur de la famille.
La plateforme Litchi promet à Alexandre de tout rembourser, mais aucun délai n'a été donné. Une enquête est aujourd'hui en cours pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ce piratage. Aujourd'hui, ceux qui souhaitent faire un don pour la famille Savornin sont appelés à le faire par chèque.
Yasmina Katou, et puis à l'instant, on apprend la conclusion d'un accord à minima à Madrid pour clôturer la COP25 après deux nuits de tractations intenses pour finaliser les accords de Paris. Donc accord à minima à l'instant à Madrid. C'était une égérie de la nouvelle vague dans les années 60. Muse de Godard, inoubliable à l'écran aux côtés de Belmondo. Anna Karina vient de mourir à l'âge de 79 ans. Et Nicolas Caro, on peut parler de la mort d'une véritable icône.
Vous voyez, ça, c'est la marque des grands mythes. Tout le monde connaît cette réplique sans même avoir forcément vu le film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Anna Karina y joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo en 1965. Et les dialogues de cette histoire d'amour sont devenus cultes.
Pourquoi t'as l'air triste ?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Anna Karina a tourné dans 7 films de Godard, avec qui elle s'est d'ailleurs mariée. Elle est née au Danemark sous le nom d'Anne Karine Bayer. Elle débarque seule à 17 ans à Paris pour devenir actrice. Elle est assez vite repérée et c'est Coco Chanel qui la rebaptise Anna Karina. Elle tourne donc avec Godard, mais aussi Visconti ou Agnès Varda. Elle joue au théâtre aussi, puis elle chante en 67 une chanson de Gainsbourg notamment. Anna Karina qui incarnait le cinéma des années 60-70, on en a moins parlé ensuite, mais elle ne s'est jamais arrêtée de tourner, d'écrire et de chanter. L'année dernière, elle publiait encore un nouvel album intitulé « Je suis une aventurière ».
Merci beaucoup Nicolas Caro. Et puis on vous retrouve cet après-midi à 14h pour votre émission La Voix et Livre. Vous allez nous parler de quoi en un mot ?
On va parler de Peter Pan puisque le manuscrit est publié.
Bien noté, la Guadeloupe à l'honneur pour l'élection de Miss France puisque c'est Clémence Bottineau qui a remporté le titre hier soir à Marseille et forcément c'était la joie à Pointe-à-Pitre.
Très bonne nouvelle, on est très content. Et bravo la Guadeloupe hein.
C'est une belle fierté pour nous parce qu'elle représente déjà notre île et puis parce qu'elle le mérite bien.
C'est la grande joie, c'est la fête, elle nous représente, elle a fait le boulot et elle a la hauteur et nous en sommes que trop fiers. Voilà.
Pour nous c'est une bonne nouvelle parce que nous, la Guadeloupe, on est quasiment à l'écart de la métropole. Et puis on a nos filles qui ont peur d'affronter cette élection de Miss France qui est très sérieuse. Et de là, de voir une qui arrive à tirer son épingle du jeu, donc pour nous, c'est une fierté.
Bon, elle ira très loin, là. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme très intelligente et digne de nous représenter.
C'est une très bonne nouvelle. C'est formidable pour la Guadeloupe et pour toutes les Guadeloupéennes. On a les plus belles femmes du monde, on a les plus belles femmes de France. Pourquoi les chercher ailleurs ?
Eh bien voilà, belle conclusion, la joie des Guadeloupéens en micro de Mathieu Bock. Dans un instant, le journal des sports, et peut-être nous dira Christophe Lamarre la même ambiance ce soir à Geoffroy Guichard.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
18e journée de Ligue 1 et de l'ambiance sûrement ce soir à Geoffroy Guichard puisque Saint-Etienne reçoit le PSG.
Même si les Verts n'ont plus gagné à domicile face aux Parisiens depuis 11 ans, Saint-Etienne se retrouve face à une montagne d'autant plus compliquée à gravir que les absences sont nombreuses. 4 attaquants purs sur le flanc, c'est-à-dire à l'infirmerie, cela complique la donne. Côté parisien, Thomas Tuchel n'a pas ce problème. Il en a un autre, gérer les stars comme Kylian Mbappé qui n'apprécie guère de sortir en cours de match. L'entraîneur parisien assume.
Vous avez l'impression c'est après que ce n'est pas facile pour moi pour gérer, mais ce n'est pas comme ça. Il est intelligent et il peut réfléchir. Et il a toujours montré une réaction très très forte. Ce n'est pas facile pour lui peut-être aussi, mais tout le monde doit accepter que j'ai fait les choix pendant le match et j'ai fait les choix sportifs. Voilà.
Thomas Tuchel avec Julien Froment, Saint-Etienne PSG, coup d'envoi à 21h, match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Deux autres matchs sont programmés ce dimanche, Bordeaux-Strasbourg à 15h, Lyon-Rennes à 17h.
La Coupe du monde de ski, première manche du slalom qui aura bien lieu ce matin à Val d'Isère avec un Français en pôle.
Alexis Pinturo a signé le meilleur temps de la matinée, la deuxième manche vient de débuter Corinne Boulou, c'est bien ça hein?
Oui. Oui, et un Alexis Pinturo en capacité de remporter ce slalom hein, sous le soleil savoyard, parti dans l'inconnu avec le dossard 1 sur la face de Bellevarde. Le champion de Courchevel a réalisé la manche parfaite en repoussant son adversaire le plus proche à 59 centièmes. L'étonnant américain Winters, dossard 40. Seuls 5 skieurs sont en dessous de la seconde. Clément Noël, l'enfant de Val d'Isère, parti à la faute dans la première manche, est le grand absent de la deuxième. Alexis Pinturo va donc s'élancer le dernier tout à l'heure pour tenter de remporter un slalom de Coupe du Monde pour la première fois depuis 5 ans, Christophe.
Corinne Boulou qui suit pour nous ce slalom de Val d'Isère. Le ski toujours, mais dans une autre discipline. Perrine Laffont remporte l'épreuve de parallèle de ski boss à Taïwo en Chine. La championne olympique signe son 3e succès en autant de courses. Chez les garçons, la victoire pour le Canadien Michael Kingsbury. Le Français Benjamin Cavet termine 2e.
Dans le reste de l'actualité sportive, la Coupe du Monde biathlon.
À Auschwitz en Autriche, la Norvégienne Thierry Letchkoff remporte la poursuite féminine devant la Suédoise Anna Åberg et une autre Norvégienne. Ingrid Landmark, 32 volts. La Française Justine Brezaz finit 4e. Le championnat du monde féminin de handball au Japon. La Russie prend la 3e place. Après sa victoire dans la matinée sur la Norvège, 33-28. La finale oppose en ce moment les Pays-Bas à l'Espagne. Le match vient de débuter. Et puis la 4e journée de la Champions Cup, c'est du rugby bien sûr. Clermont reçoit Bath à 16h15. Victoire indispensable pour les Clermontois s'ils veulent rester dans la course à la première place de leur groupe occupé actuellement par l'Ulster.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche et ça s'annonce très agité dans le sud, Laurent Cabrol.
Effectivement Fabienne, malheureusement ça se complique un petit peu près de la Méditerranée et brutalement hein, nous allons retrouver des vents extrêmement forts. Cette fois ce sont des vents de sud, ils viennent de la mer donc et ils vont engendrer de fortes pluies sur le Languedoc, le Roussillon, sur les Cévennes pour la journée de demain. C'est une éventualité qui n'est pas très très heureuse. Les départements qui sont en vigilance en ce moment pour inondations seront épargnés, mais enfin sur des régions comme Languedoc, Roussillon, Cévennes, ça, il pleuvra assez copieusement. En ce qui concerne les autres régions de France, pratiquement les deux tiers nord, ce sera un temps plutôt ensoleillé, mais, il y a toujours un mais, avec des pluies qui vont se manifester au fil des heures près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Vous voyez que la journée de demain s'annonce quand même en demi-teinte, comme l'on dit, on pensait qu'elle serait beaucoup plus souriante. Les températures, elles, restent très douces pour la saison, entre 11 et 18 degrés, 11 à Caen, 13 à Paris par exemple, 15 degrés à Clermont-Ferrand et 18 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, on vous retrouvera dans quelques minutes pour la météo des neiges. À suivre, je vous le disais, 11e jour de grève dans les transports, le ton qui se durcit entre l'exécutif et les syndicats. Est-ce que c'est la bataille de l'opinion qui est en train de se jouer? On en parle avec mon invité, le politologue Jérôme Sainte-Marie, auteur de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions de Cerf.
Il est midi 49 et le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre invité Fabienne Lemoyle.
11e jour de grève dans les transports et le ton qui se durcit entre l'exécutif et les syndicats avec en ligne de mire la journée de mobilisation de mardi. Je vous le disais dans le Parisien, Édouard Philippe renvoie les syndicats à leurs responsabilités s'ils veulent priver les Français de Noël. Et dans le JDD, le patron de la CFDT, Laurent Berger, lui demande de revoir sa copie et que le gouvernement retire tout simplement l'âge pivot de sa réforme. Un point, c'est tout. Avec moi en studio, le politologue Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Pollingvox et auteur de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme. Qu'est-ce qui est en train de se jouer, Jérôme Sainte-Marie? C'est la bataille de l'opinion publique à deux jours de cette nouvelle journée d'action des syndicats?
Oui, alors en termes de bataille d'opinion, parce que c'est l'expression courante, disons qu'on est plus dans la guerre de position que dans la guerre de mouvement. J'ai sous les yeux le sondage publié par le JDD, le sondage de l'IFOP, qui montre une très grande stabilité des lignes dans l'opinion, puisqu'on a aujourd'hui 54% des Français qui expriment du soutien ou simplement de la sympathie, contre à peu près 30% des Français qui, eux, sont hostiles à ce mouvement social. C'est majoritaire, c'est beaucoup plus fort ce soutien et cette sympathie que lorsqu'il y avait, il y a quelques années, des mouvements qui étaient purement des mouvements de cheminots. Donc ça prouve bien
vous
que les Français...
Vous pensez à 95
Non, je pense à des mouvements beaucoup plus récents, il y a deux ou trois ans en fait.
En 2018
on voit bien que l'opinion a compris que ce n'était pas évidemment un mouvement qui ne tenait qu'à ceux qui étaient mobilisés. Que, donc le système des retraites suscite une inquiétude beaucoup plus grande que cette préoccupation des cheminots.
C'est ça qui explique pour vous que ça reste majoritaire alors que les gens ont du mal à se déplacer, alors qu'il faut trouver une nounou pour aller récupérer les enfants à l'école.
On peut même aller plus loin quand on demande aux gens s'ils souhaitent l'abolition, le maintien des régimes spéciaux de retraite, notamment pour les cheminots. Les trois quarts des Français sont favorables à l'abolition de ces régimes spéciaux. Et cependant, une majorité d'entre eux sont favorables à ce mouvement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, prisonniers de la communication gouvernementale qui vise depuis le départ à tout ramener à cette question des régimes spéciaux.
Et du coup, ça donne du grain à moudre à ceux qui veulent poursuivre la mobilisation.
Et à cette promesse d'universalité qui a déjà été rompue, puisque je rappelle quand même que les policiers ne seront pas concernés, fort opportunément, par cette réforme. Donc, vous avez effectivement une partie de l'opinion. Alors, vous avez aussi, j'insiste là-dessus, une partie de l'opinion qui est favorable à la réforme, soit pour des raisons idéologiques. Donc, c'est largement les électeurs de premier tour d'Emmanuel Macron.
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Une très grande partie.
C'est ce qu'il répète aujourd'hui en disant qu'il l'applique.
Une très grande partie des électeurs, et il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus, des électeurs de François Fillon sont également favorables à la réforme et sont de toute façon spontanément très opposés à une mobilisation dès lors qu'ils voient apparaître les drapeaux de la CGT ou de Sudrail. Et vous avez également sociologiquement une autre catégorie qui soutient fortement la réforme. Une catégorie très nombreuse. Ce sont précisément les retraités. Les retraités sont toujours favorables aux réformes de la retraite.
Ils soutiennent des réformes qui ne les concernent pas, a priori.
Précisément, non, mais dont ils espèrent une garantie supplémentaire sur la pérennité du système dont ils dépendent désormais. Donc ça fait du monde, ça fait donc... On n'est pas dans un rapport, si vous voulez, uniquement le gouvernement face au peuple. On est simplement dans un rapport où chacun se situe en fonction de ses intérêts. Beaucoup de Français sont, très inquiets par l'imprécision de la présentation qui est faite de la réforme.
Mais Jérôme Sainte-Marie, si je vous parlais de bataille de l'opinion publique, c'est que la grande question qui est montée ces derniers jours, c'est y aura-t-il des trains Noël ? Et en gros, cette idée qu'il faut faire une pause ou pas, et là, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de bataille de l'opinion publique.
Oui, mais ça ne prend pas tellement cette histoire de Noël. Évidemment, les gens ont envie d'être réunis en famille. Ils savent très bien, spontanément, que les choses ne sont pas encore faites. De toute façon, les syndicats ne peuvent pas, j'ai bien vu que Laurent Berger le faisait, mais les syndicats les plus déterminés n'ont aucun intérêt à se positionner là-dessus avant la mobilisation du 17.
Laurent Berger dit d'ailleurs dans le JDD ce matin qu'il ne veut pas qu'on prenne les usagers qui ne payent pas l'addition. Voilà.
Oui, mais c'est toi des usagers en otage. Moi, j'ai connu ça très longtemps, en 1995. Je me souviens de 86. Attends, excusez-moi, en 86, il y a un mouvement étudiant qui est suivi une mobilisation dans les transports.
Qui a eu lieu pendant la période de Noël du 15 décembre.
Et on a droit
exactement
à la même communication gouvernementale. Il fait froid, c'est décembre, ça tombe bien.
Et les trains n'ont pas
les gens
à Noël.
Attendent sur les gares. Ben oui, c'est une grève de SNCF. Et on va prendre le petit Jésus en otage dans sa crèche. Bon, ça, sincèrement, c'est une communication qui est tellement habituelle et tellement outrancière.
Mais revenons, Jérôme Sainte-Marie, sur la mobilisation de mardi. Vous me disiez, ça, c'est effectivement quelque chose pour vous d'important de regarder qui sera dans la rue.
Oui, alors justement, ça gèle un petit peu le paysage jusqu'au 17.
Et beaucoup jusqu'à mardi.
J'ai discuté avec des syndicalistes assez déterminés qui, en réalité, envisagent une trêve pour Noël. Mais pourquoi vont-ils se prononcer là-dessus alors qu'on est une mobilisation qui monte et qu'au fond, leur promesse est peut-être que le gouvernement fléchisse avant Noël. Donc s'ils annoncent qu'il faut une trêve entre Noël et le jour de l'an, ça signifie en quelque sorte qu'ils sont persuadés que le gouvernement ne va pas céder. C'est pas très mobilisateur. Il faut voir qu'on est dans un jeu, dans un conflit. Bon, c'est normal, chacun joue avec sa communication, le gouvernement et les syndicats. Donc, après, c'est assez important, cette histoire de manifestation. Moi, je n'y accorde pas une importance si grande que cela pour une raison toute simple. En 2010, vous aviez eu une réforme des retraites assez importante. On était passé de 60 ans, en fait,
à
62
ans. C'est quand Nicolas Sarkozy avait décidé l'allongement.
Énorme mobilisation,
de deux ans.
Plus importante dans les rues que celle qu'on constate actuellement. Très fort soutien dans l'opinion, mais pas de grève. C'était ce qu'on appelle, vous savez, les mobilisations saute-mouton. C'est-à-dire, c'était chaque semaine, il y avait un jour comme ça, mais le pays n'était pas paralysé. Eh bien, les syndicats ont connu une déroute absolue. Et ça a d'ailleurs été un argument pour Nicolas Sarkozy et François Fillon ensuite de dire « Regardez, nous avons réussi à faire cette réforme. » Ce qui compte, c'est quoi? C'est le blocage du pays et puis l'idée d'une propagation de la grève à d'autres catégories.
On entend bien ce que vous dites, Jérôme Sainte-Marie. En un mot, on en sort comment? Est-ce qu'on en sort comme en 95, c'est-à-dire en retirant la réforme? On entendait Alain Minc ce matin, proche d'Emmanuel Macron, qui disait au micro de Patrick Cohen qu'il fallait que le gouvernement recule.
Trois sorties possibles. Bien sûr, comme en 2010, le gouvernement maintient tout et l'emporte en misant sur... Mais il prend un risque important, c'est de créer un contentieux avec beaucoup de Français qui se payera. On n'est maintenant plus qu'à moins de deux ans et demi d'élection présidentielle.
Il y aura
des élections municipales,
etc.
Ça peut être une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire effectivement la réforme passe, mais les gens, il ne faudra pas trop leur demander d'aller participer au second tour, par exemple. Donc ça, c'est la première chose, mais le gouvernement peut l'emporter. Et capitaliser là-dessus ensuite dans un certain électorat. Ensuite, vous pouvez avoir, mais j'y crois pas non plus, un retrait total, mais c'est pas possible en réalité après ce qu'on a connu le 10 décembre 2018. C'est-à-dire que s'il y a deux fois un recul comme ça en race campagne d'Emmanuel Macron sur le bloc qui le soutient risque de s'émietter, ce que vous pouvez avoir, c'est comme en 95. 95, je rappelle que c'était un retrait partiel, qu'il y avait eu un recul sur les régimes spéciaux, mais inversement, la réforme de la sécurité sociale avait été maintenue. C'est plutôt vers ce genre de perspective que l'on va.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. On a bien compris que cette mobilisation de mardi sera quand même assez déterminante et que le dialogue reprendra peut-être après. Et je rappelle que vous avez écrit récemment aux éditions du CERF Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme. Et puis vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à 13h avec les carnets du monde. Bonjour Sophie Larmont. Vous nous emmenez où aujourd'hui?
Bonjour Fabienne, notre première destination ce sera La Valette à Malte pour évoquer les derniers rebondissements dans l'enquête sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia. Vous savez, cette journaliste qui enquêtait sur de grosses affaires de corruption de Lille. Ça fait plus de deux ans que sa voiture a explosé et enfin ça bouge. Une enquête qui déstabilise le pouvoir politique jusqu'au sommet.
Merci beaucoup Sophie Larmoyer, à tout de suite.
Et dans un instant, la météo des neiges. Partez au ski en toute sécurité avec les pneus hiver Hankook. Des pneus aux performances optimales, même par temps froid. Hankook vous présente la météo des neiges.
Et on retrouve Laurent Cabrol. Et Laurent, vous nous dites qu'il faut faire attention au risque d'avalanche.
Allez, je ne reviens pas sur l'enneigement qui est copieux sur la plupart des stations, mais en ce qui concerne la douceur, elle fragilise le manteau neigeux et donc les risques d'avalanche sont très grands sur des régions comme les Alpes du Nord ou les Alpes du Sud par exemple, qui sont les plus concernées. Sur les Vosges et le Jura, pour cet après-midi, le temps sera souvent ensoleillé, un temps presque estival avec 15 degrés au sommet de ces massifs. Sur les Alpes du Nord, 2000 mètres, 5 à 10 degrés à 2000 mètres, vous voyez que c'est vraiment la grande douceur. Sur les Pyrénées, c'est tout avec une douceur à partir de 2000 mètres, 1800, 2000 mètres. C'est soit un peu de flocons, soit un peu de pluie. Mais enfin, il fait très doux. Et sur le Massif central, ce sera souvent nuageux avec un petit peu de pluie.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Il est 13h. Bon dimanche à tous. L'essentiel de l'info sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle.
Le dialogue social semble au point mort entre le gouvernement et les syndicats. 11e jour de grève dans les transports. Chacun campe sur ses positions par voie de presse interposée. Dans le Parisien ce matin, Édouard Philippe renvoie les syndicats à leurs responsabilités s'ils veulent priver les Français de leur Noël. Et le Premier ministre dit qu'il reste ferme sur le principe d'une réforme. À cela, le patron de la CFDT, Laurent Berger, répond dans le JDD qu'il ne veut pas de blocage à Noël, qu'il ne faut pas faire payer l'addition aux usagers, mais que dans tous les cas de figure, le gouvernement doit retirer l'âge pivot de sa réforme. Côté trafic, encore beaucoup de perturbations. À la SNCF, un TGV sur 4, un TER sur 3, un Transilien sur 5. À la RATP, c'est encore pire. Toutes les lignes de métro sont à l'arrêt, à l'exception des deux automatiques, la 1 et la 14. Pour le RER, aucun train en circulation pour le RER A et seul un RER sur B sur 3 entre midi et 18h. Dans le reste de l'actualité, la mort d'une icône de la nouvelle vague, muse de Jean-Luc Godard, Anna Karina, est décédée à l'âge de 79 ans. Elle aura marqué par son rôle dans Pierrot le Fou et son interprétation de Sous le soleil exactement de Gainsbourg. Et puis, Miss France 2020 a été élue hier soir à Marseille. C'est Miss Guadeloupe qui a remporté la couronne. Clémence Bottineau qui sera donc Miss France 2020.
Et c'était Fabienne Lemoyle. On refera un point sur l'actu de ce dimanche dans une heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.